Bonjour, comme chaque année à la même période, nous délaissons 7 jours d'actualité pour nous intéresser à 365 jours d'événements, autrement dit à une année d'actualité. Première partie ce samedi 26 décembre, seconde partie samedi prochain.
Pierre-Édouard Deldic.
Pour nous accompagner, Yann Mince, notre ami Yann Mince, journaliste au magazine Alternative Économique. « 2015, vous le savez, une année particulièrement tragique en France. La France meurtrie par le terrorisme, dans le monde, les conflits, les réfugiés, mais aussi quelques nouvelles plus réjouissantes quand même, comme le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba en juillet. Écoutons le président Barack Obama.
« We are neighbors, now we can be friends. »
Nous sommes voisins, désormais nous pourrons être amis. Aux États-Unis, on est enthousiaste. Les Américains veulent voyager à Cuba. Les hommes d'affaires veulent investir. Et par-dessus tout, les Américains veulent connaître leurs voisins du Sud. Et à travers cet engagement, nous aiderons les Cubains à améliorer leurs conditions de vie. Et je vais dire les choses sans prendre de gants. On ne peut pas prendre en otage le futur de Cuba à cause du passé. Car c'est de cela qu'il s'agit, un choix entre le futur et le passé. Certains veulent remonter le temps et revenir à une politique isolationniste. Mais il est plus que temps de réaliser que cette approche ne fonctionne pas. C'est un échec depuis 50 ans.
Une année d'actualité, première partie, à écouter comme pour notre rendez-vous hebdomadaire habituel sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes avec nous cette semaine. Vous serez avec nous la semaine prochaine pour passer en revue cette année 2015 particulièrement lourde, surtout vue de Paris. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année ?
Bien sûr, vu de Paris, c'est un peu un effet, comment dire, de myopie peut-être, mais ce sont évidemment les attentats à Paris. D'abord ceux de tout début janvier. Je crois que la France ne pensait pas qu'elle pourrait être victime de ce genre d'attaque, et à plusieurs reprises.
À deux reprises, au
tout début janvier. Ensuite, je pense qu'il faut éviter justement, en tout cas quand on est journaliste peut-être, et même à Paris, et même quand on est potentiellement menacé parce qu'on passe par là et qu'un attentat fait des victimes, comme on dit, collatérales, des gens qui ne sont pas forcément directement visés, mais ça peut arriver. Je pense qu'il faut éviter les effets d'optique. Et moi, il y a un événement qui m'a beaucoup frappé cette année, dont on ne parle pas beaucoup dans les médias français, qui est la guerre au Yémen. C'est une guerre qui a été initiée, je dirais, à la fois par des acteurs yéménites, mais aussi largement par l'Arabie Saoudite. Une guerre qui est meurtrière, qui est menaçante et qui, justement, fait le lit des mouvements djihadistes dans ce pays. Et c'est pas nécessaire de leur donner de nouveaux endroits pour prospérer.
Alors, j'ai sous les yeux le magazine, un supplément du magazine Alternative Internationale pour les abonnés et le même magazine pour, sous la bannière, j'allais dire, Alternative Économique, supplément intitulé « Quel monde en 2016 ?».
Oui, c'est un numéro que nous faisons tous les ans avec nos amis du CERI Sciences Po, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Donc c'est à la fois comment dire un bilan d'un certain nombre de grands enjeux, de grandes crises, là notamment effectivement le djihadisme, mais aussi la question migratoire, mais aussi les relations avec la Russie compliquées. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle guerre froide ? Et puis ensuite tout un tas d'articles alors qui sont traités pays par pays, à la fois de façon un peu rétroactive mais aussi prospective, et par exemple sur des pays dans lesquels il y aura en 2016 des élections, des enjeux, des scrutins importants qui pourraient être des tournants pour ces différents pays, et puis les relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, enfin tout un tas de sujets qui sont dans l'actualité en cours et à venir.
Une année d'actualité.
Alors, nous commençons notre voyage. Nous sommes en janvier, Yann, et on parle de la Grèce avec la victoire de la gauche au pouvoir avec Syriza. Début d'une année instable pour ce pays européen. Reportage le 26 janvier de Juliette Guermante.
Plusieurs milliers de personnes sont venues écouter le discours d'Alexis Tsipras sur l'esplanade de l'université d'Athènes, comme Elena Vassilaki, avocate à la retraite.
C'est une heureuse journée, et demain elle sera encore meilleure.
Elle a toujours voté Syriza, elle anticipait une victoire de la gauche radicale, mais pas un tel score.
Parce que je n'étais pas sûre que les gens puissent comprendre que voter Syriza était une priorité pour nous, pour nos vies. Je n'étais pas sûre que les gens puissent comprendre ça.
Un peu plus loin, une doctorante grecque est venue de Paris pour donner sa voix à Syriza. Elle se dit heureuse, mais elle ne veut pas se faire d'illusions.
On sait que la situation est très compliquée et on a voté vraiment avec un espoir plutôt qu'avec une confiance que tout ce qui était annoncé allait se mettre en place. On sait qu'il y aura des compromis.
Alexis Tsipras est arrivé en fin de soirée. Dans un discours d'une dizaine de minutes, il a parlé d'espoir pour toute l'Europe. Il s'est dit prêt à appliquer son programme anti-austérité, mais il n'exclut pas des négociations avec la Troïka.
En 2015, une année de plus de guerre en Syrie contre l'organisation de l'État islamique notamment et victoire des Kurdes aidés par les bombardements de la coalition internationale à Kobané, Yann Mince, Kobané reprise aux djihadistes, correspondance le 29 janvier de Jérôme Bastion.
Kobané pleure et ses larmes sont nombreuses et froides comme la pluie, chante cette petite fille qui a enduré les 4 mois de siège, comme quelques centaines de familles comptant beaucoup de jeunes enfants qui n'ont jamais pu se résigner à l'exil. C'est le cas par exemple de Wahida Rasoul, une mère de famille en train de cuisiner un plat de haricots secs avec une maigre ration de viande.
Le premier soir après la fin des combats, ça a été une joie incroyable. Un sentiment indescriptible. On a eu l'impression de reprendre goût à la vie, de recommencer à vivre, tout simplement.
Alors que dans la ville désormais calme, on entend toujours voler les avions de la coalition, Shoresh Hassan, porte-parole des forces de défense populaire kurde pour Kobané, explique les raisons de cette victoire.
Il est certain que l'aide de la coalition, surtout vers la fin quand ça devenait difficile pour nous, a été capitale face à l'armement lourd de Daesh et l'aide des Peshmergas irakiens aussi. Mais le plus important a été la détermination de nos combattants.
Dans les campagnes alentour, la guerre pour repousser la menace islamiste se poursuit, toujours avec l'aide de la coalition. Mais en ville, on pense déjà à la reconstruction, explique le maire de la ville, Mohamed Saïdi.
Comme on peut le voir, la ville est totalement en ruine. Il faut tout reconstruire. Nous étions un peuple pauvre et maintenant nous n'avons plus rien. Aussi, nous n'avons d'autre solution que de demander à la communauté internationale de nous apporter son soutien pour nous aider à redémarrer dans la vie en rebâtissant notre ville.
Car petit à petit, la vie reprend déjà ses droits à Kobané.
Une année d'actualité en compagnie de Yann Mince. Nous commençons notre voyage et je salue déjà quelques auditeurs, je le ferai pendant toute cette émission et la semaine prochaine aussi. Je salue par exemple Magloire à Lomé, Hassan qui est journaliste à Rabat et Chiaka qui nous écoute à Bamako. Ce sont tous des auditeurs fidèles, tous ceux que je vais citer, qui nous accompagnent tout au long de l'année. Alors premier sujet, au moins chronologique, Yann Mince, la Grèce et Syriza.
Oui, je pense que c'est l'illustration de plusieurs choses, des choses de temps long et des choses de temps un peu plus court. Le temps long, c'est la victoire d'un mouvement, d'un parti qui vient quand même du mouvement communiste grec, un mouvement qui a une histoire très particulière à cause de la façon dont la guerre s'est dénouée, la Seconde Guerre mondiale s'est dénouée en Grèce avec une insurrection communiste très durement réprimée avec l'aide d'occidentaux, etc. Et donc on a un sentiment qu'il y a une espèce de revanche dans l'histoire tardive.
Oui. Un effet retard.
Voilà. Et à plus court terme, évidemment, je pense que la victoire de Syriza traduit l'exaspération d'une grande partie de la population soumise à une politique d'austérité extrêmement brutale. Politique d'austérité qui est la conséquence elle-même des erreurs tragiques des élites grecques dans la gestion du pays depuis plusieurs décennies. On ne peut pas dire uniquement que c'est de la faute de l'Union européenne, même si le traitement administré par l'Union européenne et par les institutions internationales, probablement un traitement contre-productif à certains égards et brutal, c'est quand même la responsabilité des Grecs eux-mêmes, d'abord des élites grecques, que d'avoir plongé le pays dans la faillite.
Et un Premier ministre, Yann, à l'action spectaculaire, qui a appelé ses compatriotes aux urnes, à deux reprises.
Oui, à plusieurs reprises, puisqu'en fait il a d'abord fait un référendum, puis ensuite, des élections. Ouais. Référendum qu'il a gagné, mais ensuite qui refusait le plan d'austérité, qui ensuite il a été obligé d'avaliser certaines mesures. Donc c'était une façon un peu étrange de faire admettre aux Grecs qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle de passer en partie sous les fourches caudines de l'Europe, même si Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, a essayé de beaucoup résister à la pression allemande, mais les chiffres étant ce qu'ils sont et le rapport de force étant ce qu'il est, En fait, la Grèce s'est retrouvée à bien des égards isolée sur la scène européenne. Je pense que probablement Syriza espérait que des pays comme la France, des pays comme l'Italie pèseraient face à l'Allemagne. En fait, non. Globalement, l'Allemagne a dicté le ton, même s'il y a eu des accommodements probablement dans le plan d'austérité, mais l'Allemagne a dicté le ton de ce qu'a été la réponse européenne aux demandes grecques.
La Grèce à la une de l'actualité pour des raisons économiques et aussi pour dans le dossier des réfugiés dont on va parler d'ailleurs dans un instant.
Bien sûr, puisque la Grèce fait partie des pays du pourtour de l'Union européenne et juste en face de la Turquie, d'où viennent aujourd'hui des centaines sont venus cette année, en tout cas des centaines de milliers de réfugiés, d'abord syriens, mais ensuite aussi, il faut le rappeler, pas mal d'Afghans en proportion des arrivées. Je crois que c'est à peu près la moitié de Syriens, mais je crois 20% d'Afghans, ce qui est quand même beaucoup. Et on a tendance à penser que parce que ça vient de la Turquie, ce ne sont que des Syriens. C'est en majorité vrai, mais ça n'est pas que des Syriens.
Alors, l'organisation de l'État islamique au cœur de l'actualité, hélas, dirais-je, Yann Mins, et cette bonne nouvelle, vue de Paris, ça n'engage que moi, je ne devrais pas m'engager, mais enfin bon, la libération de Kobané par les Kurdes en janvier.
La libération de Kobané, c'est un événement très paradoxal. C'est-à-dire, ce sont effectivement des Kurdes syriens aidés par des avions occidentaux qui libèrent la ville de Kobané. Quand je dis des Kurdes syriens, ce sont des gens qui sont proches du grand parti kurde de Turquie. Et évidemment, l'idée qu'un parti implanté des deux côtés de la frontière ait une victoire militaire n'a pas ravi les autorités turques, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup,
notamment M. Erdogan, en particulier.
Notamment M. Erdogan, qui est dorénavant président de son pays, non plus Premier ministre. Et c'est un fait que les autorités turques ont empêché les Kurdes de Turquie d'aller soutenir de l'autre côté de la frontière les Kurdes de Syrie. À l'inverse, ils ont accepté que les Kurdes d'Irak, qui relèvent d'autres partis politiques, viennent les aider. C'est un peu paradoxal. Il a fallu aller chercher des gens, des Kurdes, beaucoup plus loin pour venir aider les Kurdes de Syrie, alors que ceux qui étaient juste de côté de la frontière n'ont pas pu le faire pour des raisons de politique turque, évidemment.
D'actualité.
Et il nous faut parler maintenant des réfugiés, bien sûr, Yann Mins. Leur exode massif en Europe est un des faits majeurs de 2015. Plus d'un million de personnes auraient traversé la Méditerranée durant la première partie de 2015. Nous en reparlerons d'ailleurs la semaine prochaine. Mais écoutons déjà ce reportage de David Bachet au Mali sur les migrants africains.
Pour gagner l'Europe sur des embarcations surchargées et de mauvaise qualité, les migrants d'Afrique subsaharienne partent majoritairement de Libye. Alassane Diko, de l'association malienne des expulsés.
Les migrants, ils sont à la recherche d'opportunités. Et il y a les risques, mais ils voient plutôt l'opportunité. On s'est dit que la Libye va être en reconstruction. Ils trouvent favorablement du travail. C'est vrai qu'il y a des troubles armés en Libye encore. C'est un peu le chaos. Il y a des départs organisés sur les côtes libyennes. Et en lien avec soit les groupes armés ou en lien avec les autorités locales de la région.
Au moins un millier d'euros pour tenter la traversée. Avant cela, les migrants qui partent du Mali ou transitent par ce pays déboursent une somme équivalente pour arriver jusqu'aux côtes libyennes. Un voyage coûteux et dangereux. Alassane dit.
Cette route-là que viennent les Africains qui veulent tenter leur chance en Europe. Les Africains qui sont aussi bien d'ailleurs des gens, comme le disait le reportage David Bachet, des gens qui cherchent des opportunités, c'est-à-dire des migrants économiques, que d'autres qui viennent de pays comme l'Érythrée, où la situation est une situation de dictature et de conscription à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on sait quand on rentre dans faire son service national en Érythrée, on ne sait pas quand on en sort, ça peut durer 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans même, semble-t-il. Et ça s'apparente en fait à des travaux forcés pour le compte de l'État. Donc ce n'est pas le même type de motivation, mais tous ces gens-là se retrouvent souvent en Libye, après des parcours que le reportage décrivait bien, des parcours dramatiques, des parcours avec beaucoup de morts déjà sur la route, et ensuite la traversée extrêmement dangereuse de la Méditerranée qui a donné lieu à ce naufrage et à une réaction, au minimum embarrassée de l'Europe qui ne sait pas en fait comment traiter cette question des réfugiés, qui la traite de façon un peu humanitaire, pas mal policière et pas tellement juridique.
Autre événement majeur de 2015, c'est après des années de négociations, un accord sur le nucléaire iranien. L'Iran a accepté de réduire de 2/3 le nombre de ces centrifugeuses qui servent à enrichir l'uranium pour une utilisation militaire. Nicolas Falaise a fait un point le 3 avril.
Selon le texte approuvé à Lausanne, l'Iran va réduire son parc de centrifugeuses, diminuer son stock d'uranium enrichi, transformer certaines de ses installations nucléaires et accepter des mesures de vérification. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, toutes ces mesures permettent de faire reculer le scénario du pire.
C'est un compromis qui éloigne l'Iran de la bombe. Aujourd'hui, on sait, et cela a été confirmé, qu'il faudrait 2 à 3 mois pour l'Iran pour accélérer son programme d'enrichissement et produire assez de matière fissile pour fabriquer une bombe atomique. Mais avec cet accord, cette période s'allonge, elle passe à 1 an. C'est donc 6 fois plus de temps qu'aujourd'hui.
L'Iran a toujours dit qu'il ne voulait pas la bombe, mais un programme nucléaire civil. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, la souveraineté nucléaire de Téhéran est préservée.
Aucune de ces mesures ne prévoit la fermeture d'une de nos installations. Le fier peuple iranien ne l'accepterait jamais. Nos installations ne vont pas s'arrêter. Nous allons poursuivre l'enrichissement, la recherche-développement. Notre réacteur à eau lourde sera modernisé et l'installation de Fordo va continuer à fonctionner.
We will continue the Fordo facility. Si les engagements de Lausanne sont tenus, les sanctions internationales visant l'Iran seront levées, ouvrant un nouveau chapitre pour ce pays et pour sa relation avec l'Occident.
Une année dans le monde.
Et il y a cette bonne nouvelle, là aussi on peut la classer dans la catégorie bonne nouvelle, c'est cet accord avec l'Iran. On va supposer que cet accord soit respecté.
Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Les Occidentaux ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas les moyens de fabriquer une bombe en moins d'un an. C'est le délai que les Occidentaux ont fixé pour pouvoir empêcher l'Iran de fabriquer une bombe, c'est 1 an. Donc ils veulent pas que l'Iran ait entre les mains de quoi fabriquer une bombe en moins de 12 mois. De ce point de vue-là, si effectivement l'Iran respecte ses engagements et si l'Agence internationale d'énergie atomique arrive à vérifier les installations de façon fiable, on aura une relative garantie effectivement que l'Iran ne se lance pas dans un programme dangereux, sachant que les motivations de l'Iran continuent à être troubles.
Après l'Iran, Yann, il y a aussi la question du Yémen. Vous y faisiez allusion au début de cette émission. Cette lutte de l'Arabie Saoudite et d'une coalition d'États contre les chiites, les Houthis.
Alors effectivement, le mouvement principal qui a causé cette intervention de l'Arabie Saoudite, c'est un mouvement de la minorité zaïdite qui est une des multiples variantes du chiisme, et celle-là est très spécifique au Yémen. Ce mouvement a renversé le président qui avait été élu à l'issue d'une transition. Comme il était seul candidat, il a été élu, d'ailleurs, c'était plus facile.
Oui,
il a été obligé de quitter le pouvoir, et c'est là que l'Arabie Saoudite a attaqué. À la tête d'une coalition qui s'est un peu réduite comme une peau de chagrin, parce qu'au départ, l'Arabie Saoudite comptait emmener avec elle tout un tas de pays, notamment le Pakistan, qui lui a dit non, alors qu'il est extrêmement dépendant de l'aide saoudienne et pakistanaise. On dit non, on va pas dans cette histoire. Les Égyptiens, ils sont allés très mollement, et au final, on a surtout les Émirats Arabes Unis et le Qatar, qui sont surtout en première ligne, surtout les Émiratis, de cette offensive, qui est une offensive
qui a commencé au mois de mars et qui dure.
Et qui dure, et je vois pas comment elle ne durerait pas. Parce que aujourd'hui, les forces saoudiennes avancent vers le pays houthi, le fief des houthis, et donc là, les houthis vont être encore plus en capacité de se défendre que dans les premiers mois de l'offensive. On était en territoire non houthi, plutôt sunnite, où effectivement la population était peut-être contre le mouvement. Là, maintenant, on arrive, si je puis dire, dans le dur, et ça risque d'être une guerre extrêmement violente si les belligérants ne trouvent pas un accord pour mettre fin au combat.
Yann, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde de cette fin décembre et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Mémoire d'un continent.
Le bagne de Guyane s'est inscrit dans une histoire économique et sociale étroitement liée à celle de la traite négrière. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, il a fallu trouver une main-d'œuvre de substitution pour produire le sucre, enjeu majeur de l'époque. Les engagés, puis les bagnards, ont alors été réquisitionnés. Explication avec le docteur en histoire, Denis Lamaison.
Mémoire d'un continent, Elikem Bokolo.
Dimanche, à partir de 15h10 TU.
RFI.
RFI, il est 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.
Jean-Baptiste Marot.
Bonjour à tous. Les principaux titres de ce samedi 26 décembre, c'est d'abord le Proche-Orient où les violences se poursuivent sans relâche. Une nouvelle attaque au couteau a eu lieu ce matin à proximité de la vieille ville de Jérusalem. L'assaillant, un Palestinien, a été tué de plusieurs balles alors qu'il s'apprêtait à poignarder un policier. Ce vendredi, une Palestinienne a déjà été tuée par des soldats.
Mais globalement, ils avaient trouvé une sorte d'accord tacite pour ne pas nous envoyer dans le décor. Même si ça faillit arriver au moment de la crise de Cuba en 1962, il était question d'armes nucléaires russes, etc. Mais bon, enfin soviétique, pardon, à l'époque. Et puis ensuite, on a eu l'impression dans les années 90 que globalement, par chute de l'Union soviétique, justement, les États-Unis se retrouvaient en gros en position dominante. Mais ça n'a pas duré. Aujourd'hui, on a un monde avec des puissances émergentes importantes. Je pense à la Chine, évidemment, aussi, mais aussi à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud, qui sont des puissances moyennes régionales, enfin un peu plus que moyennes dans le cas de la Chine, et qui, en tout cas, n'entendent pas se soumettre au leadership américain et même pas occidental. Et puis, on a aussi des vieilles puissances qui reviennent, certes un peu affaiblies, mais la Russie fait aujourd'hui un retour, ne serait-ce que par sa capacité de nuire. Oui. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas d'arbitre, et les Nations Unies, malheureusement, n'ont pas les moyens de faire ça. Puisque, justement, le Conseil de sécurité est fait d'un certain nombre de ces puissances qui se disputent le leadership, et d'autres frappent à la porte, comme l'Inde, par exemple, ou le Brésil, sans pouvoir rentrer, en tout cas comme membre permanent du Conseil. Donc, il n'y a pas de pilote dans l'avion, il y a une impression d'anarchie, et puis, en plus, il y a un repli américain aujourd'hui clair. Depuis Barack Obama, après les expéditions néfastes des années Bush en Irak notamment, je pense que...
Et
Obama
avant le prochain de Donald Trump, peut-être
J'espère que non. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, on est à un repli. Du coup, cette impression que personne ne tient le manche, mais est-ce qu'il faut que quelqu'un tienne le manche, vraiment?
Alors Yann, nous avons parlé de l'actualité du monde avant le flash, nous aborderons les rivages africains tout à l'heure, rendez-vous évidemment avec quelques messages, mais nous allons parler de la France maintenant, janvier, et on ne le sait pas encore, le début d'une année terrible, attentat contre le journal Charlie Hebdo et contre un magasin hypercacheur à Paris, au total 16 victimes, sur l'assaut des terroristes contre les dessinateurs de Charlie Hebdo, notamment Franck Alexandre.
Le mercredi matin, c'est le jour de parution de Charlie Hebdo. C'est aussi le jour de la conférence de rédaction du journal. 11h30, deux hommes cagoulés et lourdement armés abattent les deux policiers en faction au 10 rue Nicolas Appert, siège du journal. Ils montent ensuite dans la salle de rédaction et ouvrent le feu sur les journalistes présents. L'une des journalistes échappe aux balles. C'est l'une des rares rescapées. Voici son témoignage, recueilli quelques instants après le drame. Elle s'appelle Sigolène Vincent. Si Sigolène Vincent est encore en vie, c'est parce qu'elle est une femme. L'un des agresseurs lui a dit « On ne tue pas les femmes, mais tu dois te convertir à l'islam, lire le Coran et te voiler avant de crier « Allah Akbar ».
Donc le 7 janvier, quelques jours plus tard, le 11, des millions de Français sont descendus dans la rue avec entre autres slogan « Je suis Charlie », reportage à Paris de Véronique Guémard.
David et sa femme ont fait une partie du parcours pour arriver jusqu'à la place de la Nation, transformée en marée humaine en fin d'après-midi. Il porte une pancarte en carton sur laquelle il a écrit
« Qui tue un homme, tue l'humanité. Ceci n'est pas une religion », montrant la Kalachnikov. Aucune religion digne de ce nom n'a jamais prétendu qu'il fallait tuer, ni prétendu convaincre, ni prétendu rallier qui que ce soit. Donc c'est un dévoiement total que de commencer à vouloir éliminer les gens à la Kalachnikov. C'est une évidence, mais que des égarés ont complètement perdu de vue.
Pour David, ces attentats ont provoqué un sursaut dans toute la société.
Moi, je pense que les gens sont venus nombreux parce qu'il y a un trop-plein d'une société qui est déjà violente, qui est de certaine manière déshumanisée, parce que les gens sont de plus en plus seuls. Consommer de plus en plus, comme on y est toujours invité, ne rend pas plus heureux. Et ils avaient besoin de retrouver un sens de la communauté. C'est pour ça que les gens sont là. J'espère que ça ne va pas s'oublier dès demain matin.
Georges, la trentaine, crie à tue-tête.
On n'a pas peur !
Ils ne font pas peur. Quand on voit tout ce flux, ça nous encourage à être encore plus forts et à mettre en place encore la laïcité dans notre pays. Vive la République !
Une femme, une bougie à la main, confie les larmes aux yeux qu'elle espère que cette flamme continuera à brûler pendant longtemps. Car, dit-elle, cet élan, cette solidarité ne doivent pas s'arrêter là.
Janvier en France, donc, je salue un auditeur qui nous a écrit, qui s'appelle Elamine Diem. Il habite à Djilongia, dans le sud de Sénégal. Et pour lui, l'année, c'est l'année du terrorisme, l'année 2015 pour lui aussi. Et je salue également Samy à Abidjan. Je précise que nous aurons dans Idée le dimanche 10 janvier, dans quelques jours, donc, Pierre Manant, le philosophe Pierre Manant, qui vient de faire un livre très intéressant sur la place des musulmans aujourd'hui dans notre pays, en France. Première partie d'une année terrible, Yann Mince, janvier.
Oui, parce que ça nous a tous saisis. Quand je dis nous, c'est à la fois les Parisiens, les Français, et puis un peu plus particulièrement peut-être les journalistes, parce qu'effectivement, j'entendais le reportage qui parlait de conférences de rédaction, c'est quelque chose qui parle à tous ceux qui font ce métier. Ce sont des réunions de bureau comme d'autres. Il n'y a rien de particulier. Simplement, on parle des sujets qu'on mettra dans la prochaine édition, que ce soit un journal, une émission de radio, une émission de télé. Ce sont des réunions entre collègues, ce sont des réunions de gens où on parle de choses sérieuses et on plaisante. Et connaissant de loin les gens de Charlie Hebdo, je pense qu'on devait quand même plaisanter mal, tout en parlant de sujets extrêmement sérieux, qui était quand même la marque de fabrique de Charlie, qui est toujours la marque de fabrique de Charlie, de parler de choses sérieuses sur un ton parfois grinçant. Donc forcément, ça nous a tous frappés. J'allais dire, ça frappe d'autant plus que ces tueurs ont frappé des gens qui nous faisaient rire, et qui nous amusaient, et qui nous faisaient rire parfois jaune, mais qui nous faisaient rire. Et je pense que c'est peut-être encore plus impressionnant que si ça avait été dans une rédaction un peu plus ordinaire, plus banale peut-être, d'un journal plus terne que ne l'est Charlie Hebdo. Moi, j'étais à la marche, évidemment, avec beaucoup de gens à Paris. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions non plus. La cause qui nous rassemble est globalement la même. Mais je pense qu'ensuite, les interprétations sont différentes et je serais moins optimiste que certains marcheurs sur le fait que l'esprit Charlie devait perdurer, en tout cas l'esprit de la manifestation devait perdurer longtemps. Je crains que ça ne s'oublie assez vite.
Et je dois ajouter que le 24 mars, c'est autre chose, mais ça rajoute à la noirceur de l'année 2015 en France. Le 24 mars, je rappelle qu'il y a eu le crash d'un avion de Germanwings dans les Alpes qui a fait 150 victimes, décidément année 2015, année terrible en France notamment.
Année d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique. Cette fois, Yann Main, c'est toujours le terrorisme en Tunisie, durement touché en 2015. À Tunis, au musée du Bardo, le 18 mars, 22 morts. Et une réaction quelques heures plus tard d'indignation, de résistance de la population. Reportage de Camille Lafrance.
Ils étaient plusieurs dizaines à crier « Non au terrorisme, vive la liberté » devant le musée du Bardo, quelques heures après sa prise d'assaut. Parmi ces manifestants, Abdallah.
La Tunisie ne cédera jamais. C'est un pays de paix, de tolérance. On en a marre maintenant. On va bouger. Je vous assure que les terroristes ne réussiront jamais dans ce pays-là. Nous demandons aux citoyens, partout dans le monde, qu'ils soient solidaires, qu'ils viennent en Tunisie.
Beda, elle, adresse directement son message à l'Assemblée et aux autorités du pays.
C'est un acte terroriste vraiment incroyable. On est là, c'est-à-dire, pour pousser les députés à appliquer la loi antiterroriste. Cette nouvelle loi, pour nous, c'est très important. Parce que si cette loi ne soit pas appliquée, ça va durer, il y aura de gros problèmes. Et il faut être sévère, absolument, on est d'accord, il faut être sévère. Il y a combien de morts, combien de blessés? Là, c'est suffisant, ça suffit, basta. Ça suffit. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout.
Le président Béjik Haïdésepsi s'est engagé à combattre le terrorisme sans pitié. Il assure que des mesures ont été prises pour que de telles choses n'arrivent plus.
Alors la Tunisie a été frappée par d'autres attentats près de Sousse, dans une station balnéaire, le 26 juin et le 24 novembre aussi à Tunis. L'actualité africaine de la première partie de 2015, c'est également l'élection d'un nouveau président au Nigeria, Muhammadu Buhari, le 28 mars, Binetta Diagne.
Emmitouflé dans un boubou bleu ciel, l'air concentré derrière ses lunettes rondes, Muhammadu Buhari se présente comme un rassembleur.
Vous avez voté pour un changement pour le bien de tous les Nigérians. Et je dois avertir les électeurs qui ne m'ont pas choisi, tout comme ceux qui se sont abstenus, que nous formons une seule et même nation. Nous sommes tous des Nigérians.
Mais sa priorité, c'est surtout de faire reculer le groupe Boko Haram qui déstabilise le nord-est du pays, une zone qu'il connaît bien et qui a majoritairement voté pour lui à cette élection.
Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour ramener la paix.
Aucun calendrier précis n'a été fourni, mais dans son programme de campagne, ce général à la retraite avait affirmé vouloir mettre les militaires dans de meilleures conditions. Il promet notamment d'améliorer l'équipement des soldats pour mieux réagir aux attaques de Boko Haram.
Suite de cette première partie d'une année dans le monde et en Afrique singulièrement en ce moment avec notre invité Yann Mince du magazine Alternative Économique. Je salue Hassan qui nous écoute à Tunis. J'adresse un bonjour à Mohamed au Niger et à Chérif au Burkina Faso. La Tunisie face au terrorisme, Yann.
La Tunisie, c'est un des, j'allais dire le seul, presque le seul, oui, pays qui soit sorti victorieux, si je puis dire, 5 ans après les révolutions arabes. Il y a eu une élection d'une assemblée constituante, l'adoption d'une constitution, et puis ensuite de nouvelles élections législatives avec une alternance. Pour moi, c'est très important le fait qu'il y ait une alternance. Ça veut dire que ce sont les électeurs qui ont pu sanctionner le pouvoir qui était sorti des premières urnes. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on change. C'est qu'effectivement, les électeurs puissent dire « bon, on a essayé cela, on va essayer les autres ». C'est ça la démocratie. C'est pas seulement qu'il y ait des élections, c'est que ça puisse changer. Oui. C'est pas seulement une procédure juridique. Mais c'est aussi le pays, un des pays qui envoie le plus de djihadistes en Syrie et en Irak. Par rapport à sa taille, c'est très impressionnant. C'est au moins 3 000, mais probablement plutôt 5 ou 6 000 dorénavant. On pourrait penser que c'est contradictoire. En fait, non. Il y a une jeunesse diplômée, frustrée de ses aspirations, parce que le modèle économique tunisien est malheureusement en très mauvais état. Et puis, il y a des réseaux islamistes, salafistes, djihadistes, anciens en Tunisie. Et donc, on a effectivement en plus la Libye juste à côté, avec une implantation de l'État islamique, aujourd'hui en Libye, importante, dans la ville de Sirte. Donc, on a un cocktail extrêmement dangereux et dont la Tunisie, qui est un petit pays, n'arrive pas à se défaire, à se débarrasser. Ça veut dire qu'effectivement, il y a à la fois un travail policier, évidemment, parce que ça passe par le renseignement, la lutte contre le terrorisme, mais aussi un travail plus compliqué, plus long, qui consiste à réparer économiquement et socialement la Tunisie. Et malheureusement, j'ai l'impression que les élites au pouvoir actuellement, que ce soit le parti Nida Tunis ou son partenaire Ennahda, le parti islamiste, je crains qu'elles ne soient pas à la hauteur de la tâche. Je crains qu'on soit dans un manque d'imagination et de volonté pour transformer vraiment ce modèle économique social, donner aux jeunes des aspirations, aux jeunes Tunisiens, qui sont des gens souvent très formés, d'autres aspirations que le désespoir, l'immigration et pour certains, le djihadisme.
Alors, il y a un autre pays, Yann, qui a fait la une de l'actualité en 2015 pour de mauvaises raisons, c'est le Burundi. Le mois d'avril, la première partie de l'année, a marqué le début de troubles à l'annonce du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, candidat à la présidentielle. Il y a eu aussi le 29 juin des législatives au Burundi, boycottées par l'opposition.
Oui, le Burundi est un pays extrêmement inquiétant pour l'année 2016. C'est un pays, effectivement, dans lequel le président de Nkurunziza a forcé, je dirais, la loi et la volonté populaire pour s'imposer dans un troisième mandat. Il dispose de visiblement autour de lui de suffisamment de gens déterminés et armés pour oui. imposer sa volonté au reste de la population. Quand je dis des gens armés, ce sont à la fois les services de sécurité et puis aussi des milices de son parti. On a vu cependant des gens qui étaient proches du président de Nkurunziza prendre de la distance avec lui. On a même vu une tentative de coup d'État pour le renverser pendant qu'il était à un sommet à Dar es Salaam en Tanzanie. Ça a échoué. Mais il y a quand même effectivement aujourd'hui un grand clivage au Burundi, un grand clivage qui risque malheureusement de prendre, et ça c'est un calcul du président de Nkurunziza, je le crains, une tournure ethnique et donc une tournure extrêmement dangereuse.
Oui, alors il y a aussi cette élection de Muhammadu Buhari au Nigeria qui est importante.
Enfin, c'est important. Les Nigériens ont choisi un homme à poigne. Il a quand même dirigé le pays oui. après un coup d'État il y a quelques décennies en arrière. Ils ont choisi un militaire et ils ont choisi un homme du Nord. Donc militaire, homme du Nord et à poigne, ce sont des qualités qui sont présumées requises pour venir à bout de Boko Haram. Le problème, c'est que quelle que soit la volonté d'un homme, quelle que soit ses déterminations, il fait avec l'instrument qu'il a et l'armée nigériane est en très mauvais état, à la fois faute d'équipement, etc., mais aussi parce qu'elle a pris des mauvaises habitudes de violence contre les populations civiles, de corruption, etc. Donc effectivement, ça suppose une grande volonté. Pour l'instant, Boko Haram a reculé en termes de contrôle de territoire, mais en termes d'activité terroriste, il continue. Et surtout, il s'est étendu vers les pays voisins, le Tchad, le Niger, le Cameroun, où aujourd'hui, effectivement, il commet une large part de ses exactions.
Une année d'actualité.
Et nous continuons notre voyage, Yann Mince, avec d'autres images sonores, comme par exemple celle-ci, lors de manifestations contre la xénophobie en Afrique du Sud au mois d'avril. Reportage à Durban d'Alexandra Branjon.
Ils
étaient plus de 4000 à défiler ce matin dans les rues de Durban pour rejeter la xénophobie. Des jeunes surtout brandissant des pancartes. Pour Lianda et Pumé, deux jeunes étudiantes, les Sud-Africains doivent se réveiller.
C'est triste, c'est déprimant. Même Mandela doit se retourner dans sa tombe parce que ce n'est pas ce qu'il aurait voulu. Il disait « Nous sommes tous Africains et nous devrions pouvoir vivre ensemble ».
Ils sont là pour pouvoir gagner leur vie. Ils ont quitté leur pays à cause de problèmes de guerre, de famine. Pourquoi est-ce que nous ne nous occupons pas d'eux ? Ils se sont occupés de nous pendant notre lutte pour la démocratie. C'est notre tour de nous occuper d'eux.
Dans la foule également des Indiens, des Blancs, Julia, la cinquantaine, est révoltée par les incidents de ces derniers jours.
J'ai honte, j'ai vraiment honte, parce que j'ai habité dans des pays africains qui nous ont assistés pendant l'apartheid. Et je n'arrive pas à croire que notre propre population se retourne contre ces gens-là. C'est traumatisant.
Dans la foule, peu ou pas d'étrangers, les différentes communautés étaient divisées sur s'il fallait ou non participer à cette marche. Selon un leader de la communauté éthiopienne, ils avaient surtout peur de possibles débordements. Mais certains dénoncent également la récupération politique de cette manifestation et accusent les autorités d'avoir réagi trop tardivement.
Ce qu'il nous faut aussi retenir dans cette première partie de 2015 en Afrique, c'est un accord sur le Nord Mali signé le 20 juin. Correspondance de David Baché.
Et maintenant, la mise en œuvre de l'accord de paix. À l'issue de la signature du texte par les groupes rebelles, un comité de suivi a été installé. Quatre commissions thématiques qui devront décider des prochaines échéances. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
En ce sens, nous devons pouvoir engager déjà le processus pour que l'armée puisse se déployer sur l'ensemble du territoire national, mais de façon progressive. Il y a des groupes thématiques qui se mettront en place pour regarder le processus de désarmement et de démobilisation. Une stratégie de développement doit pouvoir être élaborée. Nous espérons organiser dans les semaines qui viennent une conférence des donateurs pour pouvoir mobiliser toutes les ressources nécessaires par rapport à l'application de l'accord.
Des priorités qui ne semblent pas les mêmes que celles de Sidi Ibrahim Ould Sidati, signataire de l'accord de paix pour les groupes rebelles.
Le plus vite possible, c'est les mesures de confiance. Nous attendons la libération des détenus, c'est le problème de sécurité et puis l'urgence, parce que nous sommes dans une période de soudure. Il faut vraiment apporter une urgence aux populations dans le Nord.
Dans son discours, le chef de la mission des Nations Unies au Mali, Mondji Hamdi, a prévenu « La mise en œuvre de l'accord de paix nécessitera du courage et de la persévérance. »
Une année d'actualité, on va commencer avec l'Afrique du Sud et ses mouvements xénophobes et ses protestations contre ces mouvements xénophobes.
Oui, l'Afrique du Sud vit une situation de tension sociale importante. Et quand je dis tension sociale, c'est ce qui concerne les Sud-Africains à la fois de souche et puis les migrants, parce qu'effectivement, on a un pouvoir qui est un pouvoir dysfonctionnel. Alors, celui de Zuma, mais déjà celui de Thabo Mbeki avant, avait pris une mauvaise tournure. Évidemment, dans ces cas-là, la tentation, c'est de se retourner contre des boucs émissaires, et sachant que l'Afrique du Sud est un pays relativement riche, en dépit de ce que je dis, par rapport aux autres pays de la région et du continent en général. Effectivement, il attire beaucoup d'immigrés, à la fois du Zimbabwe, du Mozambique, d'Éthiopie, de Somalie, etc. Donc ce sont des boucs émissaires faciles. Alors évidemment, j'entendais dans le reportage et les militants qui disaient « nous avons été accueillis pendant l'apartheid », etc. Mais ça n'est qu'une petite partie de la population qui a été accueillie. La plus grande partie de la population est restée pendant l'apartheid. Donc elle n'a pas forcément, se sent pas forcément redevable aux pays voisins de les avoir accueillis. Les Sud-Africains d'aujourd'hui, surtout vu la jeunesse de la population, pour eux, la lutte contre l'apartheid, ouais, c'est une affaire ancienne. Tout ça est assez vieux. Donc c'est la situation d'aujourd'hui qui les intéresse. Et avec, dans une partie de l'opposition sud-africaine, des mouvements populistes, je pense aux Economic Freedom Fighters, qui sont un parti dirigé par Julius Malema, l'ancien dirigeant de la Ligue des Jeunes de l'ANC, qui est aujourd'hui en rupture avec le parti. Là, il y a un discours populiste assez dangereux. Je ne dis pas du tout que ce soit un discours xénophobe, mais quelque chose qui flatte, disons, les instincts de violence d'une partie des gens qui, effectivement, sont dans des situations économiques extrêmement défavorables.
Mais on a eu aussi l'impression, à la fin du mois de décembre, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, Yann, qu'il y a un rejet de plus en plus grand de l'ANC en tant que parti et de cette époque de Nelson Mandela, décidément, vous l'avez dit d'ailleurs, qui s'éloigne.
Elle s'éloigne parce qu'en fait, l'ANC s'est trouvée depuis la fin de l'apartheid, depuis l'élection de Mandela, donc depuis une vingtaine d'années maintenant, en situation de parti ultra-dominant. Il n'y avait personne en face. Il n'y avait pas d'autres partis en face. Pas d'autres partis représentant la communauté noire, des partis représentant plutôt des fractions de la communauté blanche, mais il s'est trouvé en position de parti hégémonique. Et évidemment, tout parti qui a du pouvoir tente à en abuser, surtout quand il est au pouvoir trop longtemps. Je disais, pour moi, la dégradation, elle s'est faite déjà sous Thabo Mbeki, le prédécesseur de Jacob Zuma, donc qui est arrivé Mbeki juste après Mandela. Je pense que c'est un tournant. Alors, Mbeki était quelqu'un qui avait des allures extrêmement smart, un peu intellectuel, comme ça. Mais il avait un discours assez glauque, je dirais, certains sujets, sur le sida notamment, et puis sur le rapport avec l'Occident. Donc, il avait déjà une tendance à flatter les instincts un peu xénophobe d'une partie de la population, plutôt par rapport à l'Occident que par rapport au reste de l'Afrique. Zuma, c'est un peu la caricature de ça. C'est un personnage truculent et un personnage visiblement dont lui-même, ou en tout cas son entourage, sont très corrompus. Et je pense que les Sud-Africains, en fait, sont extrêmement déçus de voir que les dirigeants noirs qui ont été promus après l'apartheid ont profité, au sens le pire du terme, se sont vautrés dans la richesse et ont oublié d'où ils venaient et le sort de la grande majorité de la population.
Alors il nous faut aussi parler du Mali avec cet accord signé en juin sur le nord du pays. Le pays se stabilise peu à peu.
Espérons-le. Ce qui m'inquiète un peu sur le nord Mali, c'est qu'effectivement on a l'impression que l'accord a gelé les points de vue mais n'a pas vraiment réconcilié les parties. Une des questions, c'est de savoir s'il faut un statut très spécifique pour le Nord Mali ou s'il faut qu'il ait le même statut que les autres régions. Sachant qu'on parle du Nord Mali, mais que dans le Nord Mali, il y a des populations extrêmement diverses. En France, on a toujours l'impression que le Nord Mali, c'est les Touaregs. Alors qu'en fait, les Touaregs ne sont qu'une partie, et une partie probablement minoritaire au Nord Mali, sauf dans la région de Kidal tout au nord. Mais dans les villes de Tombouctou, de Gao, il y a de toutes autres communautés. Et le mouvement indépendantiste, le mouvement autonomiste dorénavant, que représente le Ménélar, ne représente que les Touaregs. Donc il y a aussi des conflits entre le Nord, et on l'a vu au moment de la signature de l'accord, qu'il y avait des dissensions, et que Bamako essayait parfois de jouer les uns contre les autres, ce qui peut être un jeu dangereux.
Alors terminons cette première partie de notre rétrospective de l'année, Yann Mince, avec un sujet que nous avons évoqué dès le début. Hélas, la terreur djihadiste. Je salue par exemple Eric qui nous écrit de Yaoundé, pour qui effectivement cette menace est un fait marquant de l'actualité de l'année. La terreur djihadiste, vous signez un article dans ce supplément Quel Monde en 2016 pour nous expliquer un petit peu le fondement de l'idéologie djihadiste avec cette obsession du califat, en tout cas mise en avant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire une différence entre Al-Qaïda et l'État islamique. En tout cas, la doctrine de Ben Laden avec deux caractéristiques. Un, effectivement, elle était pour l'établissement d'un califat, mais elle savait que ce serait à très long terme. Et deux, Ben Laden conseillait de ne pas prendre le contrôle d'un territoire, mais de s'infiltrer dans les luttes locales pour peu à peu affaiblir les États-Unis au Moyen-Orient et affaiblir les régimes que leur sont proches. La stratégie de l'État islamique, de Abu Bakr al-Baghdadi, son chef, est complètement différente. Je dirais c'est presque l'opposé. Abu Bakr al-Baghdadi s'est proclamé calife ici et maintenant. Enfin, quand je dis ici et maintenant, c'est en juillet 2014. Et l'État islamique a conquis un territoire contre les consignes de Ben Laden. Pourquoi est-ce que Ben Laden ne voulait pas la conquête d'un territoire? Parce qu'il disait un territoire, ensuite, il faut le défendre, il faut l'administrer, et c'est beaucoup d'ennuis, et ça retarde l'objectif de lutte qui est l'affrontement contre l'Occident, etc. Les priorités de l'État islamique et les priorités d'Al-Qaïda sont différentes. Le problème aujourd'hui, c'est que ce qui marche, ce qui donne l'impression d'avoir du succès, ce qui fait peur à l'Occident et qui, du coup, attire des vocations de jeunes djihadistes en Occident, mais aussi dans le monde arabe, c'est l'État islamique. Aujourd'hui, oui. La marque qui monte, si je puis dire, c'est l'État islamique. La marque qui décroît, qui chute, c'est Al-Qaïda.
Avec un territoire, avec des richesses.
Avec des richesses, avec un territoire, mais aussi avec, que Ben Laden avait raison de ce point de vue-là, avec la difficulté d'avoir à le défendre contre des armées conventionnelles. On voit bien aujourd'hui que le territoire de l'État islamique est bombardé, surtout par la coalition occidentale, un peu par la Russie. Et puis aussi une population à gérer, une population de plusieurs millions de personnes. Est-ce que les djihadistes dans l'État islamique sont capables de faire fonctionner un État, un crypto-État, un para-État, comme on dira? Est-ce qu'ils sont capables ou pas? Ça, c'est une question de durée, de temps. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire fonctionner les services publics? Une des hypothèses auxquelles on peut penser, c'est que ça finisse par devenir une sorte de Corée du Nord djihadiste, c'est-à-dire un régime extrêmement fermé, avec un minimum d'échanges. Mais ça suppose à ce moment-là que Abu Bakr al-Baghdadi renonce à la volonté d'expansion. La Corée du Nord, on la tolère, j'ai dit on fait avec, parce qu'elle n'essaie pas de s'étendre vers la Corée du Sud ou vers ailleurs. En tout cas, elle n'essaie plus de s'étendre. Donc c'est une hypothèse, la question c'est de savoir si l'État islamique est viable et si les populations qui vivent sous son joug vont supporter ce joug longtemps.
Merci Yann Mins. Il faut donc lire Quel Monde en 2016, supplément publié par Alternative Économique et par Alternative Internationale pour les abonnés. Nous allons vous retrouver samedi prochain pour la seconde partie de cette évocation de l'année 2015. Une année d'actualité à la place d'une semaine d'actualité de samedi durant donc. Réalisation toujours de Vanessa Rovensky, évidemment. Un grand merci à la Sonothèque de RFI, Eugénie Ducré, Laurence Arniguet, Françoise Bourgault et Françoise Delignon. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée et nous allons vous offrir une sorte de menu de fête, car nous parlerons cinéma, du cinéma vu du côté des grands producteurs américains notamment, avec notre invitée productrice elle-même, Marie-Christine de Montbrial. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 16h, temps universel. Bonne fête, bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Dans les pays européens, la crise financière complique le financement des régimes de sécurité sociale et de retraite. Pourtant, dans les pays en développement, l'aspiration au mieux-être pousse les gouvernements à mieux protéger les citoyens. Alors, l'État-providence est-il menacé ou est-il encore plein d'avenir ?
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Tout à l'heure, à partir de 11h10 TU.
RFI.
RFI 10h à Paris, 9h en temps universel.
Jean-Baptiste Marot.
Bonjour à tous et merci d'écouter la radio du Monde. Les principaux titres de ce samedi 26 décembre, c'est d'abord l'évacuation des populations de plusieurs quartiers de Damas assiégés par l'armée syrienne qui doit commencer aujourd'hui. Le régime de Bachar al-Assad et l'organisation État islamique sont parvenus à un accord hier. En parallèle, le